Mobile studio.
Ça va pour toi?
Ouais.
Hablo con Tristan Birla Desmain. Lo ramo y se rompe tus cabezas. Tus piran con la chacra peguendrai. Del fin amor e del tutto scursei. Calvando la speranza, la rena vez ne lo portavo un volen. Il morclo y zen que es amaro que le bulía. E rei d'amor ben qui manzabe. Esperais o com lo cap de l'inginen, desesperats e farais as pun jorna. Suspirant por la chacra peguendrai, del fin amor e del tutto sus consei. Car amor e speranza, n'arena vens n'ano portavo lo bulen. Us mor cruzen che sa maro che le bulia, e rei d'amor ben gilman fame.
Merci.
Non, merci.
Bah, qui ai-je l'honneur? Bon, alors moi c'est Nicolas de Dieu.
Voilà, donc je fais partie de l'ensemble La Rosa Troubadoresca. Donc on interprète la poésie des troubadours en occitan.
C'est ça, Languedoc, ouais.
Voilà, Languedoc pour dire oh, pour dire oui. Et donc là ce que je vais interpréter c'est un plaine d'une troubadouris, donc qui est une dame troubadour. Puisqu'il y a plusieurs genres, plusieurs de troubards. Il y a la Kansou, qui est le grand chant d'amour et troubadour. Mais là, c'est un plagne, c'est un chant de regret. C'est une troubadouriste qui dit que son ami est mort et que dorénavant, partout on pourra l'amener, elle ne sera plus jamais amoureuse. Voilà, c'est une des sept valeurs du troubard qui est le reténémen. Voilà. C'est un amour impossible. Voilà.
C'est une culture qui étienne un peu tout ça ou que tu es allé chercher?
Oui, je suis moi-même ariégeois, je suis né dans les montagnes, dans les Pyrénées, à côté du château de Foix, j'ai grandi après à Carcassonne, donc dans les châteaux dits cathares, dans la religion cathare, bien sûr. J'ai grandi dans l'histoire, je jouais avec les Playmobil, les chevaliers, bon, évidemment, comme tous les gosses. Hein. Mais après, à l'adolescence, je me suis tourné vers la musique, je me cherchais, mais je ne savais pas trop vraiment. Et puis, ma grand-mère disait toujours, mais si les pierres pouvaient parler. Je me disais, tiens, c'est vrai que en quelle langue elle parlait, quel instrument il y avait, pourquoi et comment. Et je me suis mis à fond là-dedans. Et puis, je savais pas, j'ai fait une grossière erreur, que j'ai mis le doigt, le bras et la tête, et j'ai tout mis dedans. Quoi. Je me dévoue à fond. Maintenant, je suis musicien professionnel. Et puis, je fais aussi de la lutherie, archéolutherie. Quoi. Voilà.
Voilà, bah, c'est quoi cet instrument alors?
Alors, cet instrument est une vielle à archer. Donc c'est l'instrument de prédilection des jongleurs au Moyen-Âge. Ce sont eux qui vont interpréter la poésie des troubadours à l'occitan. Donc, parce qu'il faut bien dissocier, le troubadour c'est l'auteur, c'est lui qui va écrire à l'occitan. C'est un lettré, il sait écrire, il va composer, faire des rimes, faire même les partitions. Et il y aura une transmission qui peut être orale chez le jongleur et qui lui va l'interpréter. Pour la femme d'un seigneur, c'est une joke d'amour à trois. Il va séduire la femme d'un seigneur dans le but de glorifier le seigneur. C'était aussi l'assurance de manger aussi tous les jours. Hein. On pouvait être habillé de rouge, c'est pas n'importe qui s'habille en rouge au Moyen-Âge. C'est une couleur qui est très difficile à obtenir et ça coûte très cher. On le voit, le drapeau à la croix occitane, elle est rouge. Hein. Donc, d'ailleurs, les barons du Nord ne sont pas trompés, ils n'ont pas fait une croisade en Norvège, hein. Ils ont fait une croisade dans le Sud. Hein. Tout arrivé de la Méditerranée, la soie, oui. Donc voilà, donc avec ce petit accessoire qui nous vient de la Terre Sainte, des croisades, donc il y a l'archer. Voilà. Donc,
Alors, ça a une particularité, donc il y a quatre cordes qui sont plutôt frottées par l'archer, même la cinquième de temps à autre, mais que tu la joues aussi au pouce.
Alors, la plus grande, donc, celle-ci, c'est le bourdon, donc c'est une note qui ne change jamais. Hein, voilà. Et donc, je l'accordais comme le Tractatus des Musica de Jérôme de Moravie dit que la vielle A, il doit avoir cinq cordes, un bourdon, deux cœurs, et un peu plus loin, deux cœurs. Alors, ré, sol, sol, ré, ré. Voilà. Donc, cette corde qui est la plus grosse, qui est en dehors du manche, on s'est toujours posé la question de savoir son utilité, on ne savait pas vraiment. On ne sait toujours pas, il n'y a pas d'écrit. Donc on pense que ça servait peut-être de rythme avec le pouce. Mais on peut peut-être aussi jouer avec le pouce, mais bon, on n'en est pas vraiment certain. On pense plus que c'est une rythmique, quoi, on n'en est pas certain. Donc là, je l'ai joué à la mode jongleur, donc non pas sur l'épaule comme les violons, mais sous à l'aisselle. Et on peut aussi le jouer à la mode orientale sur le genou, d'agamba, voilà.
L'archéolutrie, ça consiste à essayer de refabriquer des instruments qui existent ou d'identifier des instruments qu'on aurait trouvés ?
Alors qui existent, on a retrouvé des fragments hein, ou dans très mauvais état. Ce qu'on fait pour pouvoir reconstituer, restituer un instrument, on va aller voir les sources, donc qui sont les enluminures, on va aller voir les sculptures en pierre. Et avec des systèmes mathématiques, donc les proportions, on va agrandir l'instrument, on va utiliser le nombre d'or, et on va reconstituer donc, cet instrument, donc avec des cordes en boyau pour la vieille archée, donc qui est des cordes boyau de mouton. Voilà, puis des essences locales, bien sûr, pas d'essence indigène comme le. On va surtout pas utiliser par exemple l'ébène, quoi, qui n'est pas du tout médiéval. Quoi. Voilà. Et la coupe, le sens du bois aussi, parce que l'erreur que font beaucoup de gens, vont utiliser une coupe sur quartier, donc le fil va être droit, qu'on retrouve sur les guitares ou sur les violons, et ça c'est pas du tout médiéval, c'est pas comme ça qu'on coupait le bois. C'est, sur quartier, on va couper le bois, on va prendre une bûche de bois, qu'on va fendre au coin, comme une part de gâteau, donc le fil sera parfaitement droit. Alors qu'au Moyen-Âge, on faisait des planches carrément de part en part, et ce qui nous donne ce côté ovale, ce joli dessin sur la table d'harmonie, et rend l'instrument beaucoup plus solide. Aussi.
Ben oui, parce qu'il a son cœur et c'est eh bien, exactement. Jusqu'au bord.
Ben ouais. Oui. Ouais, voilà. Donc voilà, donc l'instrument qu'il y a, que nous avons devant nous, c'est une reconstitution de la vieille archée donc de Saint-Jacques de Compostelle.
Et du coup, une interprétation, une reconstitution, puisque c'est quand même à partir de.
Alors voilà, c'est ça. Il faut rester très prudent. On n'a pas d'enregistrement, on n'a pas de. C'est pas une copie, c'est une restitution d'après une sculpture en pierre. Alors bon. Ça reste quand même la grandeur, peut-être à 2-3 cm près, on n'y est pas loin. La tension des cordes, les boyaux, c'est pareil. Bon, on n'y est franchement pas loin, quoi. Si c'est pas ça, on n'y est pas loin. Hein.
Et qu'est-ce qui fait qu'il y a ce son tout de suite, là, on a entendu quelque chose qui nous plonge, pour ceux qui au moins se sont diversifiés dans leur culture musicale, dans ce son qu'on croirait médiéval.
Non, mais alors, effectivement, moi, c'est ce qui m'a de suite séduit à cet instrument, qui a un son rond, chaud, râpeux, qui vraiment est là pour soutenir la voix, qui est instrument roi au Moyen-Âge, on déclame, on va chanter, mettre en musique une poésie, accompagner ce superbe instrument qui a cette rondeur, cette profondeur vraiment magnifique, très chaude, et qui nous transporte vraiment. Quoi. Ouais, je crois que c'est un instrument qui est reconnaissable à 10 km à la ronde. Quoi. Quand on connaît l'instrument, on dit ah ben ça c'est une vieille archée. Quoi. Ouais.
Donc l'archéolutherie et musicien professionnel, tu nous disais tout à l'heure, ça passe donc par des études particulières, quelles sont-elles ?
Alors moi je suis un peu indigène à l'histoire, c'est que... alors moi je suis un autodidacte, je suis un peu un touche-à-tout, je suis un curieux de nature, et ce qui m'a apporté d'être repéré par une doctorante aux États-Unis, qui m'a fait venir en Amérique, mais je suis parti en tournée avec mon groupe aux États-Unis, et j'ai fait des conférences notamment sur la typologie de la vielle romane au XIIe siècle, Occitanie médiévale, donc pendant 3 heures en anglais, j'ai parlé de du nombre. Oui, voilà, donc pour les futurs doctorants et des doctorants. Alors, je vous prie de croire qu'on ne raconte pas n'importe quoi, que vous faites saigner à blanc comme un cochon. Quoi. Voilà, donc je suis passionné, curieux, je lis beaucoup, et je côtoie beaucoup de luthiers, d'archéolutiers, j'interprète, je fais mes troubadours. Donc, bon, on essaie d'être le plus sérieux possible, le plus rigoureux, ce qui nous évite de les railleries peut-être des doctorants, quoi. Ça, on montre vraiment le sérieux. Parce que on peut être peut-être doctorant, mais quand je pose la question, on utilise du crâne de cheval pour l'archer, on va utiliser du crâne de cheval, toujours mâle, jamais femelle, mais même eux sont incapables de me répondre. Et c'est les petits de CP qui répondent.
Et on va utiliser du.
Alors, je vais vous répondre. Tout simplement parce que la femelle, donc au niveau de la queue, le crin de la queue, va uriner sur le crin et l'urine étant un ammoniaque va rendre le crin cassant. Voilà. Et de ce fait-là, on va toujours prélever du crin mâle. Le fait que le mâle urine devant ne souille pas son crin. Et c'est pour cela qu'on va toujours prélever du crin mâle, jamais femelle. Et même ça, les doctorants, moi, ils ne le savent même pas. Ouais. Donc, vous voyez, le diplôme ne veut strictement rien dire. Rien ne vaut l'expérience sur le terrain, quoi. Voilà. Et de lire et faire des recherches, parce que eux, qu'est-ce qu'ils font ? C'est de la recherche. Après, c'est... Bon, après, il y a aussi des musiciens. Moi, j'ai rencontré des gambistes. Mais même un gambiste qui était doctorant, qui avait un doctorat de musicologie, ne savait pas, par exemple, pour l'archer, ne savait pas. Ouais. voilà, même plein de choses. Hein. Bon, après, c'est typique à la lutherie, mais c'est très particulier, ils ne savaient pas, quoi. Mais ils sont très friands de ça aux États-Unis. Ouais. Ouais.
Et en France ?
En France, je dirais, c'est boudé. Ouais. C'est boudé parce que pas médiatisé.
Pourtant, c'est vraiment notre culture, hein, a priori.
C'est notre culture, bien sûr, oh, la loi. Par exemple, le mot amour, c'est inventé par les troubadours. Parce que contre l'église de Rome, Roma, on a inversé, c'est devenu amour. Le O se prononce à OU, amour, la fin amour, deviendra OU, O-U-R, amour en français. Et donc, les troubadours ont eu l'idée de se faire face à Rome, où on mariait les filles pour de la terre, pour le pouvoir, au sentiment d'amour. Donc, on a inversé Roma, amour. Voilà, le mot amour, c'est occitan. Voilà.
Alors, t'as lu quoi ? Tu parlais de lecture, en tout cas. Qu'est-ce qu'on pourrait lire aujourd'hui pour se rapprocher le plus possible ? Ou qu'est-ce qu'on devrait voir pour se rapprocher le plus possible de cette culture médiévale ?
Alors ça, c'est tout...
Visiter les châteaux cathares, déjà.
Bon, bah alors les châteaux, oui...
J'en ai fait un peu, c'est quand même tout de suite, on est dans une ambiance. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors, parce qu'il faut savoir aussi que la plupart n'ont pas été démolis par la croisade, par les Français, mais ont été démolis sur ordre du cardinal de Richelieu. Voilà. Bon, moi, je peux... Évidemment, le plus connu, c'est Carcassonne, ça cite Carcassonne. Mais pour moi, le plus emblématique, c'est peut-être Montségur. C'est le symbole de la résistance occitane sur l'État français. Quoi. C'est pour moi c'est un vaisseau qui pose là sur un roc et qui emprunte vraiment
Il est très, très long, là, c'est ça, sur une falaise, non,
c'est pas... Alors, ça, c'est Pays Repertus. Ah, hein. C'est la Carcassonne céleste. Oui, 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 il est très, très beau, ça aussi. Oui. Il y a aussi Kéribus, il y en a Miglos aussi, qui est moins connu, dont le seigneur Rabat est mort à Montségur, qui était de religion cathare. Bétienne d'ailleurs, cette boucle de ceinture, qui est une vieille archer, bien du château de Miglos. Voilà. Alors, que lire ? Bien, moi, ce que je peux vous conseiller, pour ceux qui savent lire l'occitan, je crois qu'il faut lire la Cansou de la Croisade, la chanson de la Croisade. C'est un livre, donc, il y a Guillaume de Tudel et l'anonyme. Donc, il y a un parti pris pour les Français et un parti pris pour le camp occitan du comte de Toulouse. Je pense que si on peut lire en la chance, alors il y a la traduction française aussi, bien sûr. Hein. Si on peut lire ça, ça va. Je crois que c'est quelque chose qui, de toute façon, c'est un livre majeur dans la culture occitane. Parce qu'il part des événements survenus, des événements politico-militaires survenus à Languedoc, qui sont très importants, le massacre Louran Mazel de Béziers, la grande boucherie de Béziers, où d'ailleurs on a entendu parler, dire comment on va faire pour dissocier les cathares des chrétiens, ben tuer les tous, dur reconnaître les siens. Alors, c'est pour dire vraiment le massacre qu'il y a eu, et ça crée un gros électrochoc de Languedoc. Puis il y a eu Béziers, où le jeune Trincavel, le pauvre, est mort à 23 ans, par traîtrise, et non par bravoure de chevalerie. Hein. Voilà. Moi, je crois qu'il faut lire donc la Cansou, la Croisade. Puis bon, il y a des grands écrivains. Il y a eu René Nelly aussi qui a écrit beaucoup avec le roman de Flamenca. Je crois qu'il faut lire le roman de Flamenca, qui est le plus beau roman de la civilisation occitane. Elle décrit plein de choses. C'est un roman qui est magnifique. Et puis bon, bien sûr, il faut lire aussi les troubadours. Quoi. Il faut lire les textes troubadours. Alors, il faut aller sur la BNF. Avec Gallica, maintenant, avec Internet, on peut se documenter. Voilà. Il y a au Cirdoc aussi de Béziers, il y a aussi le fac-similé qui est magnifique, qui est relié. Enfin, dans du parchemin, il est vraiment magnifique, qui a coûté une fortune d'ailleurs, et on peut le consulter si on le demande au Cirdoc de Béziers, on peut consulter ce manuscrit qui est le Bréviaire d'amour et du troubadour Ma Framling Out. Et il commence son livre, pas parlant de grâce du Seigneur, patati patata, il dit « Le droit de nature commande, le droit de nature commande ». C'est beau ça, parce qu'il y a un troubadour qui a dit « Tel le poisson qui va vers l'appât, moi je vais vers l'amour ». Et c'est vrai, une fois qu'on est amoureux une fois dans sa vie, c'est fini, on est mordu par l'amour, et on va toujours vers l'amour. C'est normal.
On y a goûté.
Ah ben, c'est ça.
Nicolas, merci pour cette petite page d'histoire. Peux-tu rappeler donc ta troupe de troubadours ? Comment on vous contacte ? On vous invite peut-être ? Où on vous trouve la plupart du temps ?
Alors, donc, bon, on a une page Facebook, La Rosa Troubadoresca. Donc, alors pourquoi ce titre d'ailleurs ? On me l'a demandé à La Rosa Troubadoresca. La rosa, c'est le pouvoir du langage au Moyen-Âge, et c'est aussi le symbole de la Vierge, parce qu'on était très croyant au Moyen-Âge. Troubadoresque, donc la rose troubadoresque, c'est le pouvoir du langage qui est troubadoresque, voilà, qui est tourné vers l'Occitanie médiévale. Voilà. Donc, on a actuellement donc, un Facebook qui tourne pas mal. On a, on a les CD, on a tout un tas de produits.
Les CD, ouais.
Voilà, oui, bien sûr, on a les CD. Là, on a un projet de CD Prêtre Separace avec le docteur Ray Donoré aux États-Unis, avec qui je travaillais dans Caroline du Nord, à Greenville, puis bientôt dans le Vermont, l'État du Vermont. Voilà, donc je repars en tournée l'an prochain aux États-Unis. Et j'ai une tournée donc, aussi l'an prochain, donc il y a la Russie, il y aura peut-être la Pologne, on va voir. Et voilà, un petit peu partout dans toute l'Europe médiévale, dirons-nous. Voilà.
Et sur les rassemblements médiévaux qui se font un peu partout en France aussi.
Alors oui,
quand on voit des... Comment ils appellent ça, des reconstitutions?
Alors bon, je fais un petit peu des deux. Je fais des fêtes médiévales. Bon, quoi je pourrais dire, du médiéval Coca-Cola. Bon, ah, parce que bon, avec les chaussures.
Le puits du foot, tout ça.
Oui, quoi. Voilà, avec les bottes en caoutchouc peint en argenté, c'est mignon. Ça remplit les caisses, mais c'est pas sincère, quoi. Bon, évidemment, il faut animer, faire des fêtes, évidemment. Mais après, je fais vraiment de l'archéologie vivante. Donc, comme je disais, les reconstitutions des chaussures des Cantigas de Santa Maria, la ceinture du château archéologique, la reconstitution du château d'Amiglos. Voilà, la reconstitution d'un vieil archer de Compostelle. Voilà, le costume que j'ai, la reconstitution du troubadour Geoffrey Rudel. Voilà, avec ce chapeau crénelé, quoi. C'est vraiment 13e, quoi. Voilà.
Donc, et même les tissus, du coup
Ah oui, bien sûr. Ah oui, alors, je représente. C'est des nobles qui écrivaient les troubadours, c'est des nobles. Hein, c'est pas... Donc, du rouge, on retrouve du rouge, de la soie. On retrouve de la soie. Voilà. Tous ces. Les symboles. C'est Alain. Ouais. Le bleu est une couleur chaude au Moyen-Âge. Le rouge est un symbole de puissance, le jaune la couleur des hérétiques ou des rebelles, voilà, des insoumis. Voilà, donc là j'ai du rouge, donc c'est comme c'est quelqu'un qui a dans la monnaie. Hein, voilà. Donc c'est parce que c'est un troubadour, et un troubadour c'est pas un bouseux, quoi. Donc c'est quelqu'un qui va quand même faire interpréter ses cansous par son jongleur dans les châteaux, dans le but de séduire la femme du seigneur, quoi. Voilà. C'est une joke d'amour à trois. Ça c'est quelque chose de très important pour l'époque parce que. Quelque part,
plus la femme du seigneur est draguée, plus le seigneur est important finalement, il a de la chance.
Oui, et puis c'était, on paye aussi aux troubadours pour ça. C'est un mécène, mais il faut comprendre que c'est un amour platonique, majoritairement. Quoi. C'était parce que pour être troubadour, il suffisait pas d'être auteur et compositeur quelquefois. Il y avait 7 valeurs à respecter, par exemple la mesure, c'est une... Et on a le contraire, on le voit dans le livre « Le breviaire d'amour » de Marc Mengaut. Il y a 7 valeurs, et 7 valeurs inverses. Donc la mesure, et l'orgueil. D'ailleurs, il y a le troubadour, je crois, c'est Père Vidal qui dit « Seigneur, il te trop te pauque », donc « Seigneur, entre le trop et le peu », il y a un mot que vous avez bien trop souvent négligé, mon Seigneur. Et ce mot-là s'appelle « la mesure ». C'est dur la mesure, hein.
Ouais, c'est dur.
Il y a plusieurs valeurs, donc le retenement, de ne se retenir, de ne pas souffrir sur soi de langage ordurier, de ne pas souffrir de malpropreté, d'être bien élevé, tout ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos enfants. C'est le dos troubadour, hein. Le dos troubadour.
C'est eux qui ont créé l'étiquette dans les cours, alors peut-être. Cette notion de valeur qui devait être tenue tout le temps.
Oui, de tenue, de comportement. Parce
du
que
coup, ça pouvait être différent de château en château, peut-être, alors du coup, suivant l'influence du troubadour.
Il est clair que l'art troubar a un rayonnement très important dans toute l'Europe médiévale, à un point que les gens du nord de la Loire, donc en vieux français, le Languedoc, ont voulu s'y essayer. Mais finalement, quand on voit ce qu'ils ont écrit, c'est Walt Disney. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Alors que chez les troubadours, quand on voit les textes, c'est un amour impossible. Et ça, c'est quelque chose qui marque. Moi, j'en veux pour preuve, par exemple, la vie de ce troubadour que j'aime beaucoup, que je représente d'ailleurs, qui est Geoffrey Rudel, qui fut prince de Blaye, à côté de Bordeaux. Donc ceux qui aiment le vin connaissent très bien Blaye, hein, voilà.
Oui.
Des pèlerins qui étaient revenus d'Antioche, puisque la principauté d'Antioche appartenait au comte de Toulouse, et avec sa femme, donc au diarne de Jérusalem. Des pèlerins qui étaient revenus d'Antioche, lui avaient vanté les beautés de la comtesse de Tripoli. Alors Geoffrey se mit à écrire énormément de cansous d'amour sur elle, sans jamais l'avoir vue. Et puis un jour, il décide d'aller la rencontrer, et donc il prit le port à Aigues-Mortes, le bateau à Aigues-Mortes, et voilà donc notre cher Geoffrey tout au vol dehors, direction la Terre Sainte, tout au vol claquant, bateau craquant, et en cours de navigation, il tomba gravement malade, il perdit la vue, l'ouïe et l'odorat, et fit porter comme mort à une auberge à Tripoli. Un de ses compagnons qui était sur le bateau apporta la nouvelle à la comtesse, qui se dépêcha à l'auberge, et ouvrit la porte, elle vit Geoffrey tendu à même le sol, elle le prit dans ses bras. Et là, la magie opère parce qu'il recouvra la vue, l'ouïe et l'odorat, mais meurt dans ses bras.
Il la voit quand même une fois.
Il la voit avant de mourir, qu'il meurt dans ses bras. Et la comtesse en a connu un immense chagrin et a terminé le restant de sa vie dans un couvent. Donc c'est un amour impossible. Ce qu'on retrouve dans le Secanto, ceux qui connaissent et qui chantent le Secanto, qui disent que ces montagnes qui sont si hautes qui m'empêchent de voir ces amours où ils sont, on retrouve ce principe de retenement, d'amour impossible. C'est le seul hymne dans le monde entier, on ne parle pas d'égorger les gens dans les tranchées. Le Secanto parle d'amour. C'est beau l'amour.
Pourquoi les États-Unis s'intéressent tant à cette question, à ton avis?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les Américains, ce n'est pas les Blancs, c'est les peaux rouges. Voilà. Ça, c'est la première. Ce n'est pas leur terre. La deuxième, c'est que les Blancs qui sont actuellement, puis même les Noirs, hein, ont des origines européennes, hein, pour certains, et donc s'intéressent à leurs origines. Moi, je vois, quand j'ai fait des concerts à The Music House, en Caroline du Nord, on a eu des attroupements de Français ou d'origine française qui sont venus. Alors, dans la vallée de la Vallée d'Ossau, beaucoup des Pyrénées d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, qui me disent « Ah oui, mais mon grand-père, je me rappelle, il parlait une langue un peu comme ça. » Alors ça leur parle, ça leur interpelle. Et ils me ressortent toujours le 50, c'est étrange. Hein. Et alors, ils s'intéressent à notre culture, à notre langue, parce que pour certains, il y a des origines qu'ils veulent retrouver. Pour d'autres, c'est pour les sonorités, c'est des curiosités. D'autres, c'est plus un côté universitaire pour accroître leur savoir. Il y a un peu toute catégorie des personnes qui viennent nous voir, toutes intéressantes, autant les uns que les autres. Ouais. Ça, c'est curieux, quoi. Aux États-Unis, pourquoi les États-Unis? On pourrait se dire, eh ben, ils ont leur culture à eux, le blues, la Louisiane. Enfin, ben non, hein, ils sont vraiment très férus. Ils sont accros quand on arrive, à chaque fois, on fait carton plein, quoi. Voilà, c'est étrange, hein, mais peut-être le son aussi. Moi, j'ai discuté avec des personnes du CNRS qui disaient que la fréquence, l'occitan, c'est une langue qui est la idéale pour bercer les enfants.
Voilà. C'est vrai, il y a quelque chose de très... on entre dans une transe.
Oui, et la vielle qui arrive derrière amène ce côté étrange et mystérieux qui vraiment nous plonge vraiment. Bon, on est dans le Moyen-Âge. Quoi.
Ouais, et puis tu parlais du bourdon qu'on connaît bien dans les musiques indiennes qui nous font bien tourner.
Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, moi, je fais aussi la musique crétoise, musique persane, ouais. Musique indienne, afghane aussi. Bon, et le bourdon, il est très présent, hein, bien sûr. Hein. Tout à fait, bien sûr. Oui.
Nicolas, donc Rosa Trobadoresque.
Voilà, Nicolas de Dieu, de la Rosa Trobadoresca. Voilà, donc j'ai également été aussi musicien d'un groupe beaucoup plus grand qui se nomme le groupe Hoc. On a été plusieurs fois disque d'or. On a fait Drucker, Nagui, enfin, on a fait plein de. Voilà, des thémas pour Arte, pour les Qatars. On a fait, l'exposition universelle à Shanghai. Le leader Christian Salès travaille aussi avec Jean-Michel Jarre, qui habite à Lyon. Voilà. Donc il fait les lumières donc, à Lyon. Voilà, donc un très grand auteur-compositeur aussi, avec qui j'ai l'immense plaisir de jouer aussi. Voilà.
Ben merci pour cet entretien.
Voilà, ben merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Merci.